lieu de création en plein centre de Québec.
Pignata! Sucrée, surette et délicieuse, la pignata Stadacone, c'est une explosion de saveurs qui fera lever le party, c'est assuré. Que tu préfères l'intégrer dans tes cocktails ou la consommation sur glace, on te promet que tous tes invités vont l'adorer. Nos quatre saveurs inspirées par les bonbons sont pêche surette, cerise atomique, pamplemousse surette et banane guimauve. Tu peux les trouver à la SAQ et à la distillerie Stadacone. En plus, plein de recettes de cocktails sont disponibles au stadacone.com. Santé!
Toi aussi, tu fais de l'anxiété par rapport à l'actualité? Tu veux savoir qui est de ton bord et qui joue dans la même équipe que toi?
Ben écoute, chérie, je me mobilise. Une émission qui crée du lien social et qui permet d'être informé sur l'actualité militante des groupes communautaires et citoyens de tes communautés. Chérie, je me mobilise. Un lundi sur deux de 16h à 17h30 sur les ondes de Schiste 94.3.
Parce que quand le feu pogne, tout brûle.
Bon mardi à tous. Vous êtes à l'écoute de Chérie J'arrive, votre retour culturel ici sur les ondes de Chiz 94.3. Et aujourd'hui, on a une belle grosse émission devant nous avec plein d'invités. On va commencer à 16h en recevant Marc Pépin, qui est doctorant en anthropologie, pardon, et qui présente son exposition Les sens des voix, résonance humaine animale à Matimekouche Lac John, qui est présentée du 31 août au 2 octobre à la salle d'exposition du pavillon Desjardins. À 16h15, on va parler du show de la rentrée avec Rachel Colin-Paré, la nouvelle vice-présidente aux affaires socioculturelles qui a lieu demain. À 16h30, on va parler de la deuxième édition de Scène Sismique, le festival théâtre in situ qui a lieu du 10 au 13 septembre aux Éboulements. À 16h45, on va parler avec le cinéaste Martin Bureau dans le cadre du festival de cinéma de la ville de Québec. Et à 17h, on va avoir une chronique littérature avec Alex Tremé-Lamarche. Alors, pour commencer l'émission d'aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir avec moi Marc Pépin. Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Alors, tu es doctorant en anthropologie ici à l'Université Laval.
C'est ça.
Et ben, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton travail de doctorat et puis comment est-ce que tu t'es intéressé à celui-ci?
Oui, bien sûr. Alors, donc, je suis doctorant en anthropologie à l'Université Laval sous la direction de Caroline Hervé, la co-direction de Patrick Platé. Moi, je m'intéresse aux liens contemporains qui existent entre les Inuits de Matimekouche Lac John et le caribou, Tik en Inuit-Émoun, et dans un contexte écologique où le caribou migrateur est en déclin, et aussi dans un contexte politique où il existe des politiques post-coloniales qui ont tendance à éroder les liens qui existent entre les Inuits de Matimekouche Lac John et le caribou.
Et justement, pour un peu démontrer là, le travail de ton doctorat, tu as décidé d'en faire une exposition qui est présentée là, depuis quelques jours déjà, mais dont le vernissage est officiellement ce soir à 17h. L'exposition qui s'appelle « Les sens des voix ». Pourquoi, en fait, faire une exposition puis mêler, justement, travail documentaire et artistique pour parler, justement, de ce sujet?
Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que ce qui m'a le plus incité à réaliser cette exposition, c'était la vulgarisation de ma recherche. Je pense que c'est un sujet de société que je n'ai pas envie qu'il soit confiné dans les dossiers académiques. Mm-hmm. Et je voulais aussi qu'il soit accessible et disponible aux Inuits et aussi à un public plus large, donc plus large que le milieu universitaire et plus large surtout que le monde anthropologique. Et donc, cette idée, c'est aussi une des manières pour moi, qui travaille en collaboration, en tout cas dans un esprit de collaboration avec les Inuits de Matimekouche, de les intégrer dans ma recherche. Voilà, et également, j'ai toujours eu envie de créer. Donc depuis toujours, depuis tout petit. Et je ne sais pas les idées qui me manquent, mais plutôt un manque de légitimité, de confiance qui m'ont été apportés en début d'année par le laboratoire d'anthropologie multimodale qui m'a permis de me lancer. Et en troisième lieu, je pense que le fait de réaliser une exposition me permet aussi de me positionner davantage sur mon sujet. Parce que avec ma casquette de chercheur, je ne peux pas réellement me positionner, je suis censé être plus neutre, alors que grâce à l'art, je peux un peu plus prendre parti, disons.
Et ben justement, dans l'exposition, l'exposition nous permet de voir puis d'entendre le territoire autrement. Et tu donnes la voix justement à différentes personnes, mm-hmm. À différents lieux, puis aussi ben au Caribou, puis l'impact que celui-ci a, mmh. en fait, et a eu et a encore aujourd'hui là, chez les populations Innu. Est-ce que tu peux nous parler justement des différentes rencontres que tu as faites, des différentes images qui sont présentées là, dans le cadre de l'exposition?
Bien sûr. Au tout début, je voulais seulement sensibiliser au ce que j'appelle les zones tampons, mais les zones de perturbation du caribou, donc qui sont autour des activités humaines, là où le caribou ne peut plus passer parce qu'il ressent du stress, des stimuli négatifs. Et de fil en aiguille, sur le terrain, j'ai fait des rencontres. Et lors de ma première exposition avec le LAM, le laboratoire d'anthropologie multimodale, je me suis rendu compte que les Innu n'étaient pas assez présents dans mon exposition. Je suis retourné sur le terrain. Et ensuite... en faisant des entretiens, en parlant avec des amis Innu à moi, je me suis rendu compte qu'ils pouvaient intégrer cette exposition et que même ils aimeraient intégrer cette exposition. J'ai aussi réalisé des vidéos pour le rassemblement des aînés qui va arriver incessamment sous peu à Matimico-Schlagjeune, qui réunit beaucoup d'aînés autochtones du Québec. Et j'ai réalisé des entretiens filmés pour cet événement. Et grâce à ces entretiens filmés, j'ai pu aussi les intégrer à mon exposition. D'ailleurs, il y a sur mon exposition l'entretien avec Annie Gabrielle McKenzie, qui est un peu un hommage, puisqu'elle nous a quittés 2 mois après cet entretien.
Et bien justement, il y a différents... ce que j'ai apprécié là, dans l'exposition, c'est que comme... Ben, premièrement, ça commence avec un peu, comme tu l'as décrit, la carte de où, en fait, le caribou est. C'est quoi ces zones, justement, de migration, ces zones qui ne passent plus, justement, à cause de toutes les perturbations que celui-ci vit. Puis il y a également plein de photos, en fait, qui représentent différents paysages, différents lieux où on peut le retrouver. Mais ce qui m'a beaucoup touchée personnellement, c'est les zones un peu de dialogue où les gens parlent de l'impact du caribou. Puis les deux dernières, il y en a une que j'aimerais lire parce que c'est... elle m'a quand même beaucoup touchée, là, les deux dernières... celle de Lucie McKenzie? Lucien McKenzie, pardon. C'est grâce à lui, le caribou, que je peux te parler aujourd'hui. Il a sauvé ma lignée générationnelle autant que ceux chez les autres. C'est grâce à lui que nos ancêtres ont survécu. Je trouve que ça parle beaucoup de l'impact, justement, là, du caribou sur la vie des gens. Puis la dernière, c'est quasiment comme un coup de poing, là, pour vrai, qui nous ramène à la réalité. Les caribous, tu aurais dû faire tes études sur les chiens, tu en aurais trouvé beaucoup plus. c'est marquant quand même.
Oui, c'est marquant. Et c'était une blague qu'on m'avait fait quand je suis arrivé sur le territoire, parce qu'il y a beaucoup de chiens à Métimicouche. Et aujourd'hui, on est dans un monde où il y a beaucoup plus de chiens que de caribous, et on est obligé d'aller toujours plus loin pour aller chercher du caribou. Et pour revenir aussi à la phrase de Lucien, ça montre toute l'importance de ma recherche ethnographique, puisque le caribou est plus qu'un animal qui va nourrir les Innus. Hein, c'est plus qu'un animal de subsistance, c'est un animal ancestral qui a permis aux Innus de vivre, qui a permis aux Innus aujourd'hui de nouer des liens avec leur territoire, de nouer des liens avec leur famille, etc. Et donc aujourd'hui, on vit aussi dans un monde médiatique où la chasse au caribou chez les Innus est décriée, alors que le déclin du caribou vient principalement d'un cycle naturel, mais aussi du réchauffement climatique et des activités humaines, et anciennement aussi de la chasse sportive qui a été fait subventionnée par le gouvernement du Canada.
Y a-t-il justement des faits qu'en allant directement sur le terrain, en allant à Lac John, qui t'ont le plus marqué justement au cours de ta recherche? Par rapport peut-être au lien entre le caribou, le territoire et les Innus qui habitent le territoire.
Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'omniprésence du caribou, malgré le fait qu'il n'y en ait presque plus. C'est-à-dire que je suis arrivé sur le territoire et les Innus m'ont beaucoup accueilli parce qu'ils savaient que je travaillais sur le caribou. Et c'est un dossier, le caribou, un peu tabou, mais en même temps, très intéressant pour eux.
Puis très important
et
aussi.
Très important. Ouais. Et le caribou est dans toutes les voies, on va dire. Et donc, même à tous les banquets, les réunions, on mange du caribou et on célèbre grâce au caribou. Et au début, quand je suis arrivé sur Amatimikouche-Lac Jeune, à travers mes lectures, je me suis dit, peut-être que je ne verrai pas du tout de caribou, même dans mon assiette. Et finalement, tout le monde parlait du caribou et il était assez omniprésent.
Puis justement, ben ça c'est beau de voir que tu pensais peut-être pas en voir, mais que justement, après avoir rencontré différentes personnes, après avoir vu l'impact réel de toutes les facettes en fait, que le caribou a sur les communautés. Ton exposition est présentée là, ici même dans le pavillon des Jardins à l'Université Laval du 31 août au 2 octobre 2026. Comment est-ce que tu invites les gens à vivre l'exposition?
Je pense que c'est sûr que les visiteurs vont peut-être pas comprendre toutes les subtilités, même les visiteurs anthropologues, toutes les subtilités de mon exposition et tous les messages que je voulais faire passer. Mais ce qui est important, je pense, c'est que les visiteurs soient sensibilisés et se questionnent sur les réalités autochtones actuelles, qu'ils se questionnent aussi sur ce qu'ils savaient avant et ce qui est représenté dans mon exposition. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'ils écoutent et qu'ils comprennent ce que les Innus, mais aussi le territoire avec lequel les Innus vivent, ont à leur dire.
Et c'est une magnifique exposition. Là. J'ai beaucoup aimé la trajectoire qui nous amène là, jusqu'à la fin de celle-ci. On a également accès à un panache de caribou. Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de ce panache-là? Comment est-ce qu'il est venu à toi?
Alors, ce panache, j'en avais d'autres lors de la chasse communautaire. J'ai réussi à récupérer des bois de caribou. Mais celui-ci est plus important pour moi puisqu'il m'a été offert par un Innu à la fin de mon enquête ethnographique. Et pour eux, on va dire, des panaches, ils en ont... Pour certains, ils en ont plein dans leur garage, etc. Ils ont toujours des histoires à raconter autour de leurs objets. Et moi, il a bien voulu me donner ses panaches avant que je parte.
C'est beau. C'est
donc ça a des valeurs une grosse valeur sentimentale pour moi.
Ouais, puis ça démontre ce cadeau-là, ça démontre, je trouve, une belle réciprocité puis l'importance que ceux-ci accordent justement là, au travail qui a été fait là, de recherche de ta part.
C'est ça. Puis si je pouvais rajouter aussi, ce qui est important pour les Innus, c'est que le caribou est utilisé dans son entièreté. Et lorsqu'on m'a donné le panache, je pouvais le mettre chez moi, il aurait été important, il aurait pu me ramener vers mes souvenirs et mon enquête ethnographique, mais je pense que le mettre dans cette exposition va lui donner encore plus de valeur.
Définitivement. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'exposition est présentée du 31 au 2 octobre, l'essence des voix, résonance humaine animale à Matimekush Lac John. Quelle est la suite? Qu'est-ce qui t'attend pour la suite de cette exposition?
Pour la suite de cette, en ce qui concerne ma recherche ou la recherche plus artistique?
Les deux.
Les deux. Bah là, je repars à Matimekush demain pour présenter mes vidéos et puis pour les soutenir aussi dans le rassemblement des aînés qui a lieu pendant 10 jours. Et ensuite, en ce qui concerne mon exposition, elle est vouée à s'améliorer, à grandir. J'ai plein de données à traiter et si je peux valoriser et puis rendre la parole des Innus accessible à travers d'autres expositions, c'est ce que je ferai. Je compte aussi peut-être exporter cette exposition en France et continuer à la faire vivre au Québec. À Québec, à Montréal, etc. Puis j'ai déjà d'autres idées d'œuvres et d'autres idées d'amélioration des photos ou des citations, par exemple.
Ce soir à 17h, c'est le vernissage. Oui. Qu'est-ce qui attend les auteurs, auditrices et les gens qui viendront assister au vernissage?
Alors, pour mon vernissage, je pense que je vais essayer de raconter des anecdotes autour des œuvres. Des anecdotes que j'ai pas encore racontées. Voilà, puis je vais essayer de raconter un peu le parcours de mon exposition et mon parcours ethnographique. Et surtout, cette exposition va, je l'espère, amener les visiteurs à me poser des questions.
Merci grandement, Marc, d'être venu me voir en studio et je te souhaite un bon vernissage ce soir. Allez voir l'exposition qui présente le territoire Innu et le Caribou au cœur de cette exposition qui est présentée au pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval, Le sens des voix. Merci à toi.
Merci.
Pour notre part, on s'en va en courte interlude musicale. On va écouter Fix de Choses Sauvages qui sont au show de la rentrée, la 25e édition qui a lieu demain au pavillon Desjardins au Grand Axe. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive sur le zone de 6-94-3. C'était Fixe de Chose Sauvage. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive sur les ondes de 6-94-3. Si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre, eh bien, Chose Sauvage sera en spectacle ici même à l'Université Laval à 21h dans le cadre du show de la rentrée. La 25e édition qui a lieu demain, le 9 septembre, à l'Atrium du Pavillon Desjardins. Et pour en parler, j'ai avec moi la nouvelle vice-présidente aux affaires socioculturelles, Rachel Colin-Paré. Bonjour, bonjour.
Allô, ça va bien?
Ça va super bien. Merci de t'être déplacée au sous-sol pour venir parler du show de la rentrée. C'est bien cool. Donc, Rachel, t'es la nouvelle responsable aux affaires socioculturelles. Après quand même quelques années là, d'avoir été quand même une autre personne qui était là. Qu'est-ce qui t'a motivée là, justement à être responsable aux affaires socioculturelles à la CADEL?
Bien moi, en fait, c'est pas du tout ma première année à la CADEL. En fait, ça fait quasiment 3 ans là, que... Mm-hmm. Je suis à la CADEL, j'étais adjointe aux affaires internes, fait que je m'occupais plus des communications. Ensuite, j'ai été aux affaires internes, en fait, l'année passée dans le comité exécutif. Et là, maintenant, je suis VP aux affaires socioculturelles. Pourquoi que j'ai fait une deuxième année et que j'ai changé de poste aussi, là, souvent les gens me le demandent. C'est parce que j'avais vraiment le goût de ramener la vie de campus, en fait, sur le campus, les événements, les rendre plus accessibles pour les personnes étudiantes qui veulent faire des événements sur le campus, que ça soit festif ou, tu sais, peu importe l'événement, là, entre autres, puis aussi faire des événements différents puis qui vont chercher plus la population étudiante, là, en général. Là, entre autres, là, il y a le show de la rentrée, mais il y a d'autres événements aussi qui vont suivre dans l'année. Là.
Ouais, c'est ça. D'autres, tu sais, on rappelle que la CADEL organise quand même plusieurs événements au courant de l'année, mais vous aidez aussi la population étudiante et les différentes associations à faire la promotion de leurs événements, là, justement, dans différents lieux là, du campus de l'Université Laval.
Oui, exact. Fait que c'était ça mes motivations là, pour la nouvelle année. Là.
Yes, puis ça a été cette année grosse édition là, pour la 25e édition du show de la rentrée, qui est un peu différente aussi là, dans sa façon de fonctionner là, comparée aux dernières années. Et là, cette année, on a une super programmation. Ça a été quoi là, la direction artistique que tu as voulu prendre là, pour mettre de l'avant les spectacles qui ont été choisis dans cette édition anniversaire?
Ouais, mais dans le fond, pour les 25 ans du show, là, en fait, quand je me suis assise avec l'équipe du comité exécutif, je me suis comme, hey, faut faire de quoi de gros. C'est sûr que la formule est différente des autres années, là, cette année, entre autres, par le fait qu'on a une seule scène.
C'est ça.
Que des autres années, il y avait plusieurs scènes, une au grand salon, au pub universitaire et tout. Cette année, on a centralisé ça dans l'atrium du Desjardins, pour justement plus focaliser que tout le monde soit au même endroit, puis apprendre aussi à découvrir différents styles de musique, qui sont pas habitués nécessairement d'entendre ou d'écouter. C'est ça. Puis quand on regardait, on était dans le bureau de la CADEL, puis il y a comme un grand babillard avec toutes les éditions des shows de la rentrée, toutes les affiches. Puis là, je regardais ça, puis je suis comme, crime, il y avait des bons noms que je voyais, puis j'étais comme, hey, ça pourrait être cool de les ramener. Mmh. Fait que cette année, entre autres, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a ramené 3 artistes qui sont déjà venus au show de la rentrée dans des années précédentes. On parle entre autres de Dedo Bees, qui sont venus en 2014, Chose Sauvage en 2018, et Calamine, là, si je me trompe pas, c'est 2023-2024. Et après ça, on a rajouté Flore et Jade, qui est un ben étudiant, en fait.
Oui, c'est ça.
Des étudiants à la maîtrise, entre autres, à l'université. Fait que c'est ça. Fait que c'était ça, l'idée générale, c'est de ramener ces groupes-là qui ont marqué un peu le show de la rentrée des dernières années et pour le 25e.
Oui, puis je trouve que c'est une bonne idée aussi de mettre tout ça sur le même stage, là, justement, là, d'amener des gens qui sont peut-être fans de Dedo Bees à venir découvrir d'autres projets ou vice-versa, tu sais, d'avoir des gens de différents horizons qui peuvent se rassembler autour d'un show par et pour la population étudiante de l'Université Laval. On se rappelle que c'est gratuit, mais... Même s'il y a juste cette scène-là, il y a quand même la scène du pub universitaire et aussi l'après-show qui va avoir lieu au Grand Salon avec DJ Lunix à partir de 23h30. Qu'est-ce qui nous attend au pub universitaire?
Mais au pub universitaire, en fait, on est allé avec une formule vraiment... mais pas, je dirais pas de base, parce que c'est vraiment pas ça, mais c'est vraiment un chansonnier, en fait, qui va être là toute la soirée. Tu sais, dans les dernières années, là, j'ai souvent entendu que les événements festifs à l'université, c'était beaucoup des DJ, genre du boom-boom, là, que j'aime dire. Mais fait que là, c'est un chansonnier qui va prendre des demandes spéciales, qui va être là pendant littéralement 4h30 de temps pour servir le pub. Fait que il va être là à partir de 21h. Fait que pendant le show de la rentrée, là, si les gens ils veulent faire un tour là, il n'y a pas de problème. Puis en plus, il y a des promos exceptionnels de nourriture au pub cette soirée-là avec les boissons aussi. Fait que...
Est-ce que tu peux nous les dire?
Oui, bien, dans le fond, à partir de 21h30, il y a une cantine de nuit maintenant au pub universitaire. Fait que quand les les vraies cuisines fermes. Il va y avoir de la nourriture de mémoire, là, de la poutine.
Ouais, un menu réduit du pub universitaire pour que les oiseaux de nuit qui sont de la partie ben, puissent quand même manger. Là.
Ouais, exact. Puis après ça, évidemment, il y a le mercredi aile de poulet là, qui est vraiment pas cher là, tout le long du mercredi soir là, aussi. Là.
Et est-ce qu'il y a quand même quelques petites informations peut-être à transmettre là aux étudiants, surtout en fonction du transport? La CADEL offre différentes alternatives pour que justement la population étudiante se rende et revienne à la maison de manière sécuritaire.
Oui, absolument. Bien, il y a toujours le LPU, là, le laissez-passer universitaire, là, qui est offert à tous les étudiants et étudiantes du campus pour ramener en autobus là, mm-hmm. À faible coût. Sinon, il y a toujours aussi la vignette de tolérance. Si vous venez en voiture, toujours possible d'avoir la vignette qui vous demande à un agent de sécurité ou à un individu de la CADEL là, qui va être sur place, identifié en rouge là, cette année. Pour donner une vignette de tolérance, ça permet en sorte aux étudiants et étudiantes de laisser leur voiture stationnée jusqu'à 13 heures le lendemain. Sinon, il y a toujours tolérance zéro aussi, mm-hmm. service de raccompagnement gratuit à la maison. Voilà, fait que ça fait pas mal le tour des offres, mais il y a toujours moyen de se rendre à la maison sécuritairement là, après le show.
Puis justement, la sécurité là, de la population étudiante, c'est vraiment au cœur là, des valeurs puis de la CADEL, là, de s'assurer que tout le monde ait un bon moment puis que tout se passe bien. Puis il y a différentes mesures aussi là, qui sont prises en compte, comme commande Angelo aussi, qui est toujours une mesure qui est présente lors de vos soirées.
Oui, exact. Mais dans le fond, tous les bénévoles sur place se sont formés là, juste avant le show de la rentrée, là, justement la formation commande un Angelo là, pour prévenir et sensibiliser les gens aussi aux violences à caractère sexuel mm-hmm. lors d'événements festifs. Et aussi cette année, qu'est-ce qui est de nouveau? On a des bénévoles aussi de l'organisme Saine et Sauve qui sont là sur place justement pour faire aussi de la prévention, de la sensibilisation lors de la soirée. Ils sont identifiés en rose à tous les événements. En fait, tous les jeudis soirs, les événements festifs au Grand Salon sont là. Fait que là, cette année, on les a amenés au show pour justement qu'ils fassent la prévention. Puis c'est toujours vraiment très grandement apprécié là, par la population étudiante en général.
Oui, puis juste de savoir qu'il y a des personnes ressources que tu peux, auxquelles tu peux parler puis qui tu peux te fier là, pendant un événement festif, c'est vraiment super important. Exact. Donc, les festivités commencent à 19h oui. officiellement. Est-ce que tu peux nous parler comme de la programmation là, de la soirée, comment tout ça va se dérouler?
Oui, bien, dans le fond, à 19h, c'est l'ouverture des portes. Il y a plusieurs kiosques qui vont être sur place à l'entrée là, du show de la rentrée. Et après, à partir de 19h15, la musique commence. En fait, on va avoir Fleur et Jade, suivi de Calamine, suivi de Chaux Sauvage et suivi de Dead Obies. Le tout ferme, bien, se termine en fait à 23h30. Et à 23h30, en fait, l'après-show ouvre ses portes. Et ça va se diriger vers le grand salon, là, fait que c'est vraiment juste à côté de l'atrium du Téjardin. On parle de quelques pas, là.
C'est ça, là. Faut juste monter l'escalier,
oui, exactement. Fait que c'est vraiment pas loin. Fait que on parle d'un DJ Lunix qui va être là, qui est une personne étudiante dans la faculté d'administration, qui va pouvoir faire durer la soirée plus longtemps. Puis il y a toujours le pub universitaire là, qui va être ouvert toute la soirée. Puis le chansonnier va être là à partir de 21h30.
Et sinon, est-ce que tu veux déjà annoncer peut-être des choses à venir là, au niveau des activités socioculturelles de la CADEL après le show de la rentrée?
Oui, bien évidemment, ça continue justement après le show de la rentrée. Il y a l'Octoberfest qui continue encore cette année, le 7 octobre prochain, qui est un événement extérieur, toujours grandement apprécié aussi de la population étudiante. Mais aussi la nouveauté cette année, que ça s'appelle la Boom, qui va être le 21 janvier. Ça va être un événement festif sur tout le pavillon du premier étage du Desjardins qui va se dérouler justement pour fêter la rentrée d'hiver.
Fait qu'il y a une nouvelle formule là, du show de la rentrée. J'ai très hâte d'avoir plus de détails. Je vais devoir te réinviter pour qu'on en parle plus longuement. Merci grandement à toi, Rachel.
Merci à vous.
Puis je vous invite tous et tout, population, gens de la population étudiante, à venir participer au show de la rentrée. 25 ans de show de la rentrée ici à l'Université Laval. Ça se célèbre en grand à partir de 19h avec Flore et Jade, Calamine, Chaux Sauvage et Dead Obies, suivi d'un DJ set pour l'after show. Merci à toi.
Merci.
On s'en va en courte pause publicitaire Et au retour, on va parler de deux événements, soit la deuxième édition de Scène Sismique, le festival de théâtre In Situ qui a lieu aux Éboulements. Et on va également parler du festival de cinéma de la ville de Québec avec un des cinéastes invités de cette édition anniversaire de 15 ans. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive, ici sur les ondes de Schiste 94.3.
Écoute locale, écoute Chiz 94.3.
Pankorama revient pour une troisième édition et c'est le retour de la programmation régulière. Tous les vendredis, on vous joue le meilleur punk, des nouveautés, des classiques et surtout de la scène locale. C'est aussi le retour de la semaine au féminin où, une semaine sur deux, on met de l'avant des artistes féminines. C'est un rendez-vous tous les vendredis à 11h sur les ondes de Schiste 94.3.
La CADEL, c'est ton association étudiante à l'Université Laval. Avec plus de 35 000 membres, nous défendons tes droits, offrons des services pratiques et créons des activités qui font vibrer la vie de campus. La CADEL est là pour t'accompagner, t'inspirer et surtout booster ta session.
C'est ce qu'on dit, jamais 203. Pour une troisième année, le syndicat des chargés de cours tient son concours de la rentrée en ligne.
Saviez-vous que près de 2000 personnes chargées de cours donnent plus de la moitié de l'enseignement à l'Université Laval? La communauté étudiante est leur priorité. Pour rejoindre le plus grand nombre, notre concours de bourses de persévérance est toujours sur notre site web. Le SCUL multiplie aussi les prix. 8 bourses de 500 $ sont à gagner si vous étudiez au premier cycle.
Trouvez le lien du bulletin de participation sur notre site au sccul.ulaval.ca et inscrivez-vous avant le 30 septembre. Vos chargés de cours vous souhaitent une bonne rentrée.
Cible au coin extérieur, le tir.
Chiz 94.3, la radio des champions à Québec.
Un monde de couleurs et de sons est une invitation à découvrir l'univers fascinant de la musique iranienne. À chaque deux semaines, Ali Rangchian présente des œuvres et des artistes qui reflètent la diversité culturelle et musicale de l'Iran. Un rendez-vous musical pour voyager à travers les sons et les histoires d'une grande tradition musicale. Un samedi sur deux, à midi, sur les ondes de Chiz 94.3.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive, votre retour culturel ici sur les ondes de Chiz 94.3. Et pour poursuivre l'émission d'aujourd'hui, on va parler de la deuxième édition de Scène Sismique, un festival de théâtre in situ qui se déroule du 10 au 13 septembre au Éboulements à Saint-Jean-de-la-Rive. Et pour en parler, j'ai avec moi à l'autre bout du fil Saria Bazin, qui est une des co-directrices artistiques et générales de Scène Sismique. Bonjour à toi.
Salut.
Alors, on se retrouve un an plus tard pour parler de Scène Sismique, un festival de théâtre, comme je disais, qui célèbre sa deuxième édition cette année. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots, Saria, sur Scène Sismique pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore ce festival?
Ben oui, avec plaisir. Scène Sismique, dans le fond, c'est une initiative de moi, Saria Bazin et Zoé Boudou, deux comédiennes. C'est né quand on était en tournée un peu partout au Québec sur un show qui s'appelle « Pendant que les champs brûlent ». Puis moi, j'étais déjà habitante de Charlevoix. et on réalisait que les pièces de théâtre tournent très, très, très rarement dans Charlevoix. C'était un peu un désert théâtral. Donc, on s'est dit, il faut remédier à ça. Et d'où est née Scène Sismique, l'idée d'apporter du théâtre dans Charlevoix pour aider la décentralisation et la démocratisation des arts vivants, dans le fond.
Et donc, oui, vas-y, vas-y.
Oui, ben, en fait, j'allais juste dire que c'est des pièces de théâtre dans des lieux atypiques, puisqu'on n'a pas de, on n'a pas de salles traditionnelles qui sont accessibles. Donc, toutes les pièces sont choisies en fonction de la, leur qualité de résonance avec le territoire, et sont, les lieux sont choisis aussi avec les thèmes des pièces.
Ouais, ben ça c'est quelque chose que je trouve super intéressant, cette partie in situ là qui démontre justement le besoin réel d'avoir des lieux accessibles, mais justement n'en ayant pas, ben vous vous recréez, vous vous réappropriez justement certains lieux en leur donnant une résonance artistique théâtrale qui fait écho avec les différentes œuvres qui sont proposées. En parlant des œuvres proposées pour cette deuxième édition, quelle a été là votre direction artistique pour la deuxième édition de Scène Sismique?
Oui, ben pour la deuxième édition, on savait que la barre était déjà très haute parce que l'année dernière, les gens ont adoré notre programmation. Les gens ont vraiment, ont vraiment participé au festival. Donc cette année, on a décidé qu'on se concentrait sur qu'est-ce qu'on lègue, qu'est-ce qu'on laisse derrière, qu'est-ce qu'on garde avec nous. Donc, c'est beaucoup des pièces sur le patrimoine, qu'est-ce qu'on porte avec nous au fil du temps, au fil des générations. Et donc, c'est beaucoup autour de ça. C'est beaucoup ça la chose qui tisse le lien entre les différentes œuvres. Et c'est vraiment intéressant parce qu'au début, quand on a fait notre programmation, on n'avait pas encore la soirée d'ouverture avec le lancement de la revue Jeu. Puis c'est eux qui nous ont contactés quand ils ont vu notre programmation, parce qu'eux aussi font un numéro sur... ils fêtent leurs 50 ans, donc ils ont vraiment un regard sur qu'est-ce qu'ils gardent du passé et qu'est-ce qu'ils veulent faire à partir de maintenant.
Mais c'est beau de voir justement que tu sais cet engouement, tout le bel engouement autour de Scène Sismique, ça démontre son importance dans le portrait artistique de Charlevoix, puis de voir qu'il y a d'autres instances comme la revue Jeu, qui est une, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une revue là, de théâtre là, qui existe, comme tu l'as dit, depuis 50 ans, qui célèbre son 50e anniversaire cette année, que toutes ces personnes-là veulent collaborer ensemble. Ben je trouve qu'il y a quelque chose de très puissant et beau là-dedans.
Oui, on se trouve tellement chanceuse, pour vrai, on est aidé vraiment par tout le monde. Tout le monde ressent un engouement, puis tout le monde a envie de participer. On se trouve tellement chanceuse quand la revue Jeu nous a contactés. On croyait pas. On se disait, ouais, on est juste un festival, c'est notre deuxième édition, puis la revue Jeu qui est vraiment, c'est gros là pour le monde du théâtre. Ils veulent faire leur lancement chez nous, et c'est fou de se dire que ça va seulement être la deuxième édition.
Et quels sont les différents, peut-être, changements, peut-être même améliorations que vous avez apportées entre la première et la deuxième édition de Scène Sismique?
Donc, une chose qui est vraiment superbe pour nous, c'est qu'on a une équipe vraiment plus grande et vraiment solide. Il y a beaucoup de membres de l'année dernière qui sont revenus, en fait, la quasi-majorité, sauf une personne à cause d'un conflit d'horaire. Donc, ça n'avait même pas une question de pertinence ou d'engouement. C'est vraiment juste on a une équipe qui a plus que doublé. Je pense qu'on est rendu 14 personnes payées pour le festival.
Wow.
Donc, ça, c'est fou. Là. On se pince. Là. C'est incroyable. Aussi, on a décidé de commencer le jeudi plutôt que le vendredi par une pour la population. C'est vraiment un petit lieu de rassemblement avant que ça parte vraiment le vendredi. Donc, le jeudi, c'est une soirée pommes et poèmes à la Cidrerie des Travaux et des Jours, qui est un nouveau lieu de diffusion. Et c'est avec Spoken Word Québec, de la ville de Québec, justement. Puis, ils accueillent, eux, ils performent et ils invitent aussi, comme dans tout leur cabaret, trois artistes, et cette fois-ci de Charlevoix.
Et justement, il y a différentes, là, il y a différents volets là, d'activités lors de scènes sismiques. On a les grands séismes qui sont la programmation grand public du festival. Il y a les foyers épicentres et les ondes transversales. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de ces quatre volets là, de scènes sismiques?
Oui, absolument. J'ai commencé par les épicentres. Les épicentres, ça doit commencer à l'enfance, l'accès à la culture. Donc, on a deux magnifiques pièces. Une le samedi qui s'appelle Taco Taxi de Louis Bergeron. Et c'est vraiment beau ça parce que Louis Bergeron, en fait, il a créé ses premières marionnettes aux éboulements. Mmh. Donc, pour nous, c'est vraiment très fort de l'inviter. Le dimanche, on y va avec L'amour te reviendra au Musée maritime de Charlevoix. On a d'ailleurs une journée complète au Musée maritime de Charlevoix le dimanche. Et c'est aussi une magnifique pièce de marionnettes. On a beaucoup de marionnettes, nous, cette année.
Oui, c'est ça que j'avais remarqué. Là. Il y a beaucoup de... Mais je trouve qu'il y a quelque chose de tellement beau dans l'art de la marionnette, là, puis de la rendre accessible à un large... autant un public jeunesse qu'un public adulte.
Oui, absolument. Nous aussi, on tripe sur la marionnette puis on veut participer à sa découvrabilité. Donc, ça, c'est les épicentres. Les foyers, ça, c'est plus des activités où on essaie de créer des liens. Donc, il y a une soirée du vendredi soir qui est une mosaïque de plein de performances et d'artistes d'ici et d'ailleurs. Puis, il y a plein d'événements comme ça qui vont plus loin que la présentation de l'œuvre. Les grands séismes, ça, c'est plus nos pièces pas de consistance, mais qui sont... Qui pour les grandes émotions, pour le grand public. Et on a quatre magnifiques pièces, dont deux qui sont déjà sold out. Il reste juste la place pour bénévolat le dimanche et vulnérable le dimanche également. Puis le dernier volet, c'est les ondes transversales. Ça, c'est une nouveauté de cette année. Et c'est en fait les œuvres qui se passent à l'extérieur des éboulements. Parce que l'entièreté de notre programmation se passait aux éboulements l'année dernière. Et là, on rajoute trois événements à l'extérieur.
Ouais, puis je trouve que les autres festivités à l'extérieur des éboulements, ben ça contribue justement directement à votre mission d'emmener le théâtre dans d'autres lieux à Charlevoix puis de le rendre accessible au plus large public.
Absolument, absolument. Il y a deux œuvres de Lambé Lambé, de la Tortue Noire. Des Lambé Lambé, dans le fond, c'est des petites boîtes marionnettiques individuelles. Donc, le spectateur regarde ces boîtes-là. Et la Tortue Noire vient au marché de la Malbaie le samedi et au marché de Baie-Saint-Paul le dimanche. Et nous, notre but avec ça, c'était vraiment d'aller chercher le plus de monde possible. Comme ça, même les gens qui n'ont pas entendu parler du festival, ils vont être au marché et vont en entendre parler et avoir accès à ces œuvres-là.
Et il y a même une œuvre qui est présentée là, à l'île aux coudes, Acupunk, un spectacle aussi de marionnettes.
Oui, exactement, des marionnettes de 18 pieds. Ouais. Ça va être la deuxième représentation, puisque la première, c'est le vendredi à notre QG.
Et est-ce que tu as envie de nous dire peut-être quelques mots sur les deux pièces qui sont présentées dimanche, dont il reste quelques places, Bénévolat, qui est une production de Tableau Noir, et Vulnérable, une production de Flo Mayotte-Léonard?
Oui, Bénévolat, dans le fond, c'est un succès théâtral. Mm-hmm, ça va être leur 99e représentation quand même. Je pense que ça fait 3 ans qu'ils tournent. C'est une magnifique pièce, un huis clos magnifique entre une femme une jeune femme qui vient faire du bénévolat dans une prison. Donc, c'est un huis clos entre le prisonnier et elle. Et c'est vraiment la force de ce texte-là. Il est vraiment très sensible et qu'on s'attache au personnage. C'est nuancé, c'est magnifique, vraiment. Et les interprètes sont extraordinaires. Vraiment, c'est dans mes pièces préférées des dernières années. Et Vulnérable, ça, c'est à 15h30, pour clôturer le festival. Ça, c'est une pièce... c'est pas une pièce. C'est une œuvre de danse. Donc, c'est une œuvre qui mêle la gigue traditionnelle et le patrimoine, mais essaye de l'actualiser. Et tout ça, c'est articulé autour d'une chaloupe. Donc, les danseurs vont giguer sur la chaloupe, autour de la chaloupe, autour d'une conception sonore vraiment spéciale. Et tout ça, dans le fond, passe au fleuve. Et c'est ça qu'on trouve beau aussi. C'est que cette œuvre-là qui parle de maritimité, qui parle du fleuve, de la chaloupe, de notre héritage, ça va se passer au musée maritime devant le fleuve. C'est quoi de plus magique?
J'adore. Puis ce que je trouve vraiment beau avec avec votre initiative, votre festival Sainte-Sismique, c'est que oui, vous mettez de l'avant le théâtre, mais surtout, vous mettez de l'avant les arts vivants sur toutes leurs formes, puis ça permet vraiment au public, aux gens de Charlevoix, puis les gens de partout autour de Charlevoix qui vont venir assister au festival, de venir découvrir l'art vivant sur de différentes facettes, puis de découvrir justement toute la richesse de cette forme d'art.
Oui, c'est ça qu'on souhaite.
Par marionnettes, danse, théâtre. Je vous invite vraiment à aller voir l'ensemble de la programmation sur scènesismique.ca pour voir l'ensemble de la programmation et surtout vous procurer vos billets pour pas se pointer le bout du nez et que ça soit sold out comme certaines pièces. Pour cette deuxième édition, sérieux, quel serait ton plus grand souhait?
Mon plus grand souhait, ça serait que le public soit encore présent, mais là, c'est sold out. Fait que j'ose croire qu'il sera là, mais que ça se passe aussi bien que l'année dernière. L'année dernière, on disait à la blague que notre plus gros enjeu, ça a été que la soupe n'était pas prête à temps le samedi soir. Ça serait génial que cette année, ce soit encore ça, notre plus grand enjeu, là, que ce soit quelque chose d'un peu superficiel et qui n'a pas vraiment d'importance.
J'adore. Puis je tiens à nommer aussi là, qu'il y a une petite chose là, que j'apprécie aussi de la programmation de Sainte-Sismique, c'est ben, naturellement les différents lieux qui sont exploités, mais également l'heure des représentations, parce que souvent ben, le théâtre, on y a accès souvent en soirée, mais là, dans la programmation de Sainte-Sismique, il y a différents shows à différentes heures aussi qui permettent à un plus large public d'avoir accès. Peu importe le rythme de votre vie, mais vous pouvez avoir accès aux différents spectacles.
Absolument. Puis on a vraiment aussi travaillé la programmation pour que les spectacles ne se chevauchent pas, ouais, ou presque pas. Donc, on peut vraiment assister à la quasi-totalité de la programmation, ce qui est vraiment bien aussi.
Merci grandement à toi, Saya, et je vous souhaite à toi et à toute l'équipe de Sainte-Sismique une magnifique deuxième édition de ce festival de théâtre in situ qui se déroule, je vous le rappelle, du 10 au 13 septembre 2026 aux Éboulements à Saint-Joseph-de-la-Rive et aux alentours aussi pour l'autre volet du festival. Merci à toi.
Merci, bonne soirée.
Et pour notre part, chers auditeurs et auditrices, on va partir en courte interlude musicale. On va écouter « Pas de vagues » de Maddy B. Avant de recevoir notre prochain invité, on va parler avec le cinéaste Martin Bureau. On va parler de son dernier film « Plus rien n'est égal par ailleurs », un film essai qui sera présenté le 11 septembre au cinéma Beaumont dans le cadre du Festival de cinéma de la ville de Québec. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie, j'arrive ici sur les ondes de Chérie 94.3.
J'avoue, j'ai menti quand je t'ai dit quand c'était comme pas de vagues. J'ai peut-être omis l'intensité, mais je sais que tu ne voyais rien. Tes mots lâchés comme des pierres.
C'était Pas de vague de Maddy B. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie, j'arrive ici sur les ondes de Chiz 94.3. Et pour poursuivre l'émission d'aujourd'hui, j'ai avec moi à l'autre bout du fil le réalisateur et peintre québécois Martin Bureau. Bonjour, bonjour.
Allô.
Alors, Martin, tu présenteras ton plus récent film, Plus rien n'est égal par ailleurs, dans le cadre du Festival de cinéma de la Ville de Québec, le 11 septembre au cinéma Beaumont. Pour débuter l'entrevue, j'aimerais qu'on parle un peu là, de ta pratique. Tu développes une pratique artistique multidisciplinaire qui conjugue le cinéma documentaire, la peinture et l'installation vidéo. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta démarche artistique puis comment ces différentes formes d'art te permettent d'exprimer ta pensée critique?
Ah, c'est une grande question pour commencer tout ça. Hein?
Ah oui?
c'est, ma démarche artistique, elle est vraiment centrée sur un regard porté sur le monde dans lequel on est du point de vue géopolitique, environnemental, social. Et puis, puis tout ça se décline à travers différents projets dont la peinture, l'installation ou le cinéma sont comme des supports, finalement, dépendamment de l'occasion, je dirais. Mais souvent au film se joint une installation qui elle-même a été influencée par des tableaux. Tout ça est imbriqué. Et puis, ben ça fait maintenant près de 30 ans là, que je suis que j'agis en fait en tant qu'artiste, puis ben tout ça c'est comme un sillon qui s'est creusé, mais c'est des regards portés sur le monde, c'est une sensibilité aussi qui est relative à la ruine, à la catastrophe. C'est pas, je dirais pas que mon travail il est positif, moi je pense que je le suis dans la vie, mais mon travail part à partir de problèmes. J'ai par exemple travaillé sur les mur de séparation étatique entre les États. J'ai travaillé sur la question de la démocratie avec le Parlement en feu, etc., etc.
Et Plus rien n'est égal par ailleurs se retrouve un peu entre l'art documentaire et art visuel. Et c'est une œuvre qui nous plonge au cœur d'un Occident en crise et qui expose en fait là, certaines pensées là, du philosophe Alain Deneau sur le fait qu'on est prisonnier des dérives du capitalisme, entre autres. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse du film? Comment est-ce que tu t'es intéressé aux pensées du philosophe Alain Deneau?
Ben, la genèse du film est relative à une espèce d'envie d'exulter. Justement, je sortais d'un projet qui s'appelle Les Murs du désordre en 2019-2020 qui m'avait amené en Israël-Palestine, aux États-Unis, à la frontière du Mexique et en Irlande du Nord. Et puis, j'avais envie d'un projet qui soit plus métaphorique, qui soit plus ouvert. Et puis, j'ai comme réfléchi à une certaine idée qu'on était tous conscients des bouleversements environnementaux qui étaient causés par les gestes de l'homme, mais qu'on continuait malgré tout à vouloir célébrer notre position, notre victoire personnelle sur l'état des choses, dans le fond. Puis, finalement, il y a un certain individualisme qui sort de ça. Mm-hmm. Et puis, donc, j'ai pensé à cette idée-là de... pour l'exprimer, comment est-ce qu'on dépensait de l'énergie, pas nécessairement de l'énergie d'Hydro-Québec, là, mais je veux dire, l'énergie était exutoire et exaltée, finalement. Donc, j'ai ressenti, comme avec des recherchistes à l'Office national du film, on a ressenti comme une centaine de sujets qui exprimaient ces débordements-là, cette énergie excédentaire-là. Et puis, c'est comme ça que le film il s'est construit, comme tel une chorale visuelle. Puis Alain, lui, je voulais pas qu'il intervienne en tant qu'interviewé, philosophe expert, mais plutôt en tant que créateur, un peu à l'instar de la conception sonore, à l'instar de la conception musicale ou de la direction photomontage. Ben, il y a la philosophie qu'Alain apporte dans le film. Et puis, c'est pour ça que on a procédé, bien, c'est qu'on a parlé plusieurs années avec Alain, on s'est parlé du projet, puis à un moment donné, quand le montage visuel tel que vous l'avez vu, en fait, là, il était pratiquement bouclé, on a envoyé ce résultat-là à Alain, puis on s'est dit, bien, on se voit dans un mois, puis on va tourner une réaction. Finalement, c'est que c'était une réaction au film. Donc, ce qu'on entend d'Alain, c'est un jam de philo qui est une réaction au film, et non pas... Il fait pas office de réponse à des questions préparées d'avance, finalement.
Ah, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant de voir comment justement son intégration a été faite dans le cadre du film. J'ai vraiment, moi, c'est un film qui m'a beaucoup marqué et surtout, en fait, par la corrélation entre la musique et l'image, parce qu'il y a une musique, là, justement, qui est faite d'Orion Eric, mais j'ai l'impression que cette musique-là mélange, en fait, les différentes textures sonores des captations vidéo et tout ça mélangé à une musique. C'était quoi, justement, là, ton intention là, artistique derrière toute cette cacophonie là, qui est présente tout au long du film?
Ben, je dois dire qu'on, tu sais, dans ce projet-là particulièrement, j'ai comme voulu remanier, rebrasser les manières de travailler, en fait, les manières de l'industrie. Puis ça s'est avéré qu'on a commencé le film par une session musicale en studio sous la direction d'Éric Dorion, donc avec des musiciens tous chevronnés, Robbie Coster au drum, Martin Tétrault au platine, René Lucie à guitare basse. Et puis donc Éric aussi. Et puis on a finalement fait deux jours de session musicale en studio, puis ça a été la matière première du film, en fait. On a commencé le film par la musique, puis on l'a fini par la philo. On a commencé par un jam de musique, puis on a fini par un jam de philo. Puis dans l'intervalle, on a tourné des images en vrac. Il n'y avait pas de scénario préétabli, si ce n'est une intention conceptuelle. Puis on avait, après ça, on s'est mis au montage en associant. Et puis Eric, lui, il remaniait ses sessions musicales, il les triturait, il manipulait numériquement, puis il nous renvoyait des propositions. Puis on faisait des allers-retours comme ça, montage, image, son, finalement.
Puis justement, est-ce que ce jam musical-là, la ligne directrice, a été le propos qu'allait être le film?
Ben, on savait, on s'était parlé des intentions du film, ouais. Puis après ça, ben moi, personnellement, en collaboration avec mes collègues créateurs, créatrices, en fait, je veux surtout qu'ils apportent leur direction artistique à eux, c'est-à-dire qu'ils agissent authentiquement le plus possible. Moi, une fois que j'ai nommé mes intentions, je deviens un chef d'orchestre de tout ça, mais tu sais, j'aime bien laisser toute la liberté là au créateur. C'est ce qu'on a fait. Ça devient après ça. C'est, à mon sens, à moi, c'est comme ça que le projet s'élève davantage, plutôt que de vouloir diriger tout des postures qui sont pas les miennes. C'est-à-dire que moi, je suis pas un musicien du tout, donc j'ai pas à dire quoi faire. Tu sais, j'ai plutôt à donner mes intentions, puis après ça, à recevoir la proposition et à choisir ensuite.
Ben justement, je trouve que ça démontre là, tout comment ça appuie beaucoup le propos, justement, ta manière de travailler puis de voir ben les différentes issues là, collectives qu'on peut avoir là, en tant que société. Puis je trouve que juste tout le travail qui a été fait sur le film que tu nous expliques là, ben ça fait justement écho là, à la proposition pardon de Plus rien n'est égal par ailleurs. J'aimerais qu'on parle un peu de toute la collecte d'images parce qu'on a accès à différents points de vue, à différentes images qu'on n'a pas nécessairement accès comme ça, là, sur le bout des doigts. Est-ce que tu peux nous parler, là, justement, de la recherche vidéo qui a été faite pour Plus rien n'est égal par ailleurs?
Bien, j'ai travaillé, mon directeur photomonteur, en fait, ça se trouve être mon fils, Émile Bureau.
Wow.
Et puis, donc qui travaille avec moi depuis, je dirais, 5 ans d'enfance, sans avoir été exploité grand temps qu'enfant, mais il a grandi avec moi dans l'atelier. Et puis donc, on est très, très connectés un et l'autre par rapport à tout ça. Puis on avait effectivement le souci de trouver des points de vue, des points de vue de caméra qui n'étaient pas normés. C'est-à-dire, c'est on ça. Essayait de... C'est très difficile d'avoir... C'est pas une prétention, en fait. Là, c'est vraiment comme une tentative. Mais c'est très difficile de trouver des points de vue qui sont inusités. Mais on voulait accéder à des lieux aussi qui n'avaient pas jamais été montrés. Par exemple, l'intérieur de l'incinérateur de Québec.
Exact.
On le voit de l'extérieur, puis on voit la fumée sortir, mais on n'a aucune idée qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, c'est ce genre de choses-là qu'on recensait, puis qu'on... on essayait d'atteindre, parce que ça n'a pas été facile nécessairement. On a essuyé beaucoup de refus. Il y a beaucoup de gens dans la société qui ont des choses à se reprocher. Puis donc, quand on veut les filmer, ben, ils se cachent en boule. Donc, ça a été très difficile à atteindre beaucoup de sujets, en fait. Mais au final, on est content parce que on a tourné sur 5 ans des dizaines de sujets. Fait qu'on avait quand même une matière pour en faire un film dont le résultat sera présenté au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Mais c'est pas sa première projection, mais ça en est une belle, parce que c'est chez moi. C'est un festival que j'aime beaucoup, dans un cinéma que j'aime beaucoup, le cinéma Beaumont. Et puis, d'ailleurs, faut pas que j'oublie de vous dire qu'il y a eu des sessions supplémentaires de rajouter le 18, 20 et 24 septembre, post-festival. Le cinéma Beaumont a programmé le film, parce que le film est sold out dans le cadre du festival. Donc, il y a des dates que vous pouvez trouver sur le cinéma Beaumont, là, pour la semaine d'après.
Mais justement, c'est pas la première fois là, qu'un de tes films est présenté là, au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Les auditeurs ont peut-être déjà vu L'Enfer marche au gaz, ainsi que Les murs du désordre aussi, qui avaient été présentés là, dans les années précédentes. Et qu'est-ce que tu souhaites que les gens qui visionnent Plus rien n'est égal par ailleurs retirent peut-être là, comme émotion ou comme réflexion suite au visionnement?
Bien, d'abord, j'aimerais, comme je l'ai créé, c'est-à-dire que j'aimerais que la première réception, ça soit vraiment une disposition à se faire brasser de manière visuelle et sonore.
Ouais.
C'est-à-dire que ce film, il se veut comme une claque d'en face.
Ah, fond, 100%. Ça, quand... puis, je l'ai vécu comme ça.
Quand ça part, il faut que tu pédales. Tu sais, puis c'est tendu, puis il y a comme une forme de malaise qu'on a voulu créer dans tout ça, mais ultimement, il faut susciter une réflexion sur notre rapport à la communauté, notre rapport au territoire, puis partir avec des de solutions que nous, on pourrait développer localement, personnellement. C'est ce que j'aimerais, parce que le film, à travers la parole d'Alain, il s'ouvre quand même à la fin avec une parole qui fait appel à une forme de solidarité communautaire et territoriale.
Ouais.
Et puis c'est ce que j'aimerais que les gens retiennent beaucoup, puis qu'ils mettent en action selon leur champ de compétences ou selon leur mode de vie, qui mettent en action des choses pour vraiment créer une forme d'espérance à travers de la désespérance que le film provoque. En fait, c'est de se remonter vers une espérance.
Merci grandement, Martin Bureau. Je rappelle que Plus rien n'est égal par ailleurs est présenté dans le cadre du Festival de cinéma de la Ville de Québec. C'est sold out, comme tu nous l'as annoncé, mais il y a diverses représentations et dates également au cinéma Beaumont après le Festival de cinéma de la Ville de Québec. Je vous invite à consulter directement le site web du cinéma Beaumont pour vous procurer vos billets. Merci à toi.
Merci beaucoup.
Et pour notre part, chers auditeurs, on dirait qu'on part en petite interlude publicitaire, mais au retour, on va parler littérature avec votre chroniqueur Alex Tremblay-Lamarche. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive, ici sur le zone de Schiste 94.3.
Vous écoutez Schiste 94.3 FM à Québec.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous présente le deuxième service du Réchaud tous les samedis et dimanches dès 11h. Le deuxième service, c'est l'actualité de la semaine commentée à ma manière, que ce soit en politique ou en critique de film à l'affiche. Je vous présente tout ce qui a retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous sur mon Réchaud. La saison 8 du deuxième service du Réchaud, c'est les samedis et dimanches dès 11h sur les ondes de Schiste 94.3.
T'es pas encore prêt à passer de ta playlist « Été Party 2026 » à « Automne pluvieux 2026 » Nous non plus. Pour une dernière fois cet été, les plus gros hits résonnent à Phono du 10 au 12 septembre. Viens voir Somber, Gims, Sophie Tucker, Natasha Bedingfield et plusieurs autres pour finir l'été en grand. Achète ta passe pour Phono sur festivalphono.com.
Le Festival Phono, une présentation de Beneva en collaboration avec RBC.
Étudiants et étudiantes du deuxième et troisième cycle, connais-tu ton asso étudiante, l'Allier? Nos bureaux sont situés à la Maison Marie-Sirois du 2320 rue de l'Université. Nos heures d'ouverture sont les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 13h à 16h. Les mercredis, nos bureaux sont fermés et vous pouvez nous envoyer un courrier à allier@allier.ulaval.ca.
T'as envie de t'éclater puis renforcer les liens de ton équipe, de vivre une expérience hors du commun? L'École du rock Ampisson a la solution pour toi. Que ce soit entre collègues ou entre amis, venez participer à une activité de 2 ou 3 heures durant laquelle vous ferez partie d'un véritable groupe de rock. Et on finit le tout avec une session d'enregistrement. Faites vite, nos calendriers se remplissent rapidement. Informations au ampisson.com.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
La CADEL, c'est ton association étudiante à l'Université Laval. Avec plus de 35 000 membres, nous défendons tes droits, offrons des services pratiques et créons des activités qui font vibrer la vie de campus. La CADEL est là pour t'accompagner, t'inspirer et surtout booster ta session.
Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive, votre retour culturel ici sur les ondes de Chiz 94.3. Et pour terminer notre émission du jour, j'ai avec moi, comme chaque semaine, votre chroniqueur littérature, Alex Tremblay-Lamarche. Bonjour!
Bonjour!
Alors cette semaine, nous parlons science ensemble, mon cher Alex.
Tout à fait. Ben, c'est la campagne électorale. Et ben, quand est-ce qu'on parle de science dans les campagnes électorales? Souvent, ben, on va avoir les maires qui vont sortir pour dire ben, ça devrait être ça nos priorités. Le milieu de l'enseignement, le milieu communautaire, le milieu culturel. Mais le milieu scientifique, lui, quand est-ce qu'on l'entend? Et donc, je me suis dit, ben, traitons de 4 ouvrages sur les sciences aujourd'hui pour effectivement rappeler cet enjeu.
Pour le premier ouvrage du jour, tu nous apportes avec Faire preuve, comment nos sociétés distinguent le vrai du faux.
C'est un ouvrage assez intéressant parce qu'il part d'une question qui a de l'air un peu évidente a priori, mais c'est quoi une preuve? Ça a de l'air effectivement un peu évident comme ça en se disant ben une preuve, ben c'est un élément factuel qui permet d'être capable de prouver quelque chose. La Terre est ronde, ben là j'ai une vision que la Terre est ronde, donc j'ai cette preuve-là. Ou effectivement, si on se met... Dans une époque où il y a de plus en plus de désinformation.
Ben c'est ça, j'allais dire. Tu sais, on a accès à de l'information plus que jamais, mais comment est-ce que on est capable de distinguer quelle est une vraie information puis quelle est une fausse information? Quelles sont les vraies preuves? Quelles sont les fausses preuves? Ça vient mêlant tout ça. Là.
C'est ça. On est à une époque où ben on remet de plus en plus en question les preuves.
Ouais.
Et donc ben souvent effectivement dans la société civile on prend pour acquis que, bon, la preuve, c'est la preuve, mais on se pose pas de questions sur qu'est-ce qu'une preuve.
D'où vient la preuve?
Ouais, d'où vient la preuve? Et bon, que la preuve, en fait, c'est pas une chose en tant que telle, mais que c'est un moyen qu'au final, sa valeur, elle va dépendre des institutions dans lesquelles on est, des méthodes avec lesquelles on les accumule, de différentes règles, que la preuve aussi, c'est culturel. Et donc, ce que nous propose ici, ce petit ouvrage-là, bien, c'est un collectif dirigé par 2 experts. Julien Prudhomme, qui est professeur d'histoire au département des sciences humaines de l'Université du Québec à Trois-Rivières et qui est un historien de l'expertise. Lui, ce qui l'intéresse, c'est comment est-ce que des experts se sont petit à petit imposés dans le débat public et on dit ben, sur cette question-là, nous, on est capable d'éclairer les gens parce qu'on a une expertise. Et c'est co-dirigé par Molly Cao, qui est professeure de philosophie à l'Université de Montréal et qui travaille sur les enjeux épistémiques dans le développement des théories physiques. Et donc, ensemble, ils ont rassemblé tout plein de contributions solution pour être capable de voir que, ben c'est ça, dans quelles conditions est-ce qu'une preuve devient acceptable? Qu'est-ce qu'une preuve? C'est ça. Et donc, ça se divise en trois parties. Une première qui se penche sur les approches théoriques, une deuxième sur les grands problèmes de la recherche et une troisième sur la preuve dans la sphère publique.
Et bien, justement, c'est intéressant d'avoir... je trouve que c'est super pertinent que cet ouvrage-là soit un ouvrage collectif pour démontrer, ben justement, les différentes voies puis différentes visions, là, justement, du sujet qui est amené dans l'ouvrage.
Tout à fait. Puis parmi les contributions qu'on y trouve, il y a notamment celle d'Yves Gingras dans la première partie. Yves Gingras, c'est un historien spécialiste de l'histoire des sciences, bien connu des auditeurs de Radio-Canada pour sa participation régulière aux Années Lumière. Et donc, lui, il revient sur l'histoire de la preuve et notamment, il nous montre que les preuves, des fois, effectivement, peuvent se construire selon différents critères dans le temps. Par exemple, il nous parle en 1572, il va y avoir un astronome danois qui va voir une étoile qui va être visible dans le ciel pendant 18 mois. Puis là, après, effectivement, on ne voit plus cette étoile-là. Or, à l'épreuve, c'est ça, pour la plupart des gens, le ciel, pour les scientifiques, le ciel est considéré comme immuable. Et donc, le fait qu'on soit capable de voir cette étoile-là, alors qu'effectivement, le ciel est immuable, pour les scientifiques de l'époque, c'est une preuve de fin du monde. C'est une preuve que de message envoyé par Dieu. Alors que là, aujourd'hui, quand on regarde ça avec du recul et avec des scientifiques qui lisent ces écrits-là, c'est plutôt effectivement une supernova. Donc, une explosion d'étoiles qui a fait qu'on a été capable de voir l'étoile pendant 18 mois puis qu'après, on la voyait plus. Ça n'invalidait pas effectivement le fait que, le ciel est immuable, la règle qu'il y avait à l'époque. Mais donc, ce que ça nous montre, c'est que, au final, les preuves peuvent être interprétées de différentes manières. Et que la preuve, au final, son but, c'est pas tant effectivement d'établir hors de tout doute quelque chose, mais c'est de réduire le doute. Et c'est là où, effectivement, ça peut sembler un peu paradoxal parce que souvent, on a tendance à penser aujourd'hui que la preuve, elle sert à anéantir le doute. Tu doutes de quelque chose, pouf, il y a une preuve, et là, la preuve, effectivement, ne te fait plus douter. Mais effectivement, en science, ce que nous disent Julien Prudhomme et Molly Cao, c'est qu'au final, la preuve, elle n'a pas pour fonction d'éliminer le doute, elle a pour fonction de le réduire, parce qu'il va toujours rester un doute qui va être aux marges de la connaissance, et c'est là que la science se fait au final.
Puis la preuve évolue aussi avec le temps, t'sais, en fonction des époques, en fonction aussi des différentes découvertes scientifiques qu'on fait au fil du temps.
Tout à fait. Puis ça, on le voit notamment dans le deuxième chapitre, la deuxième section, les grands problèmes de la recherche. Ce qu'on voit, c'est que, en science, un des principes fondamentaux, c'est la nécessité de reproduire des expériences. Donc, si, par exemple, je fais couler une balle de plomb dans l'eau, je suis capable de montrer que la masse du plomb est plus lourde que la masse de l'eau. Et c'est ce qui fait effectivement que ça coule, mais je vais être capable de le refaire 2, 3, 4 fois. Et donc là, d'établir quelque chose avec une nécessité, avec une démarche scientifique. Mais ça pose effectivement tout plein de questions. Et on a des chercheurs qui nous parlent notamment d'une étude d'un psychologue américain, si je ne m'abuse, en 1962, Jacob Cohen, qui avait analysé plus de 70 articles en psychologie. Et ce qu'il voyait effectivement dans ces articles en psychologie, c'est que tous ces articles-là avaient des résultats significatifs. Et que, alors que la science, c'est pas ça. La science, effectivement, des fois, c'est d'arriver à quelque chose qui, a peut-être pas fonctionné comme on le voudrait, qui, des fois, effectivement, a pas des résultats aussi concluants qu'on le voudrait. Et donc, cette abondance de données-là, effectivement, c'est ça. Il remettait ça un petit peu en question et on a une contribution qui traite de ça. On a aussi des contributions sur l'analyse par le texte. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve notamment chez les littéraires, chez les historiens, chez les sociologues. Quand on est effectivement du côté plus des sciences nature, souvent, ça va être davantage effectivement les molécules qu'on va regarder, ce genre de choses-là. Mais quand on est du côté des sciences humaines, on analyse le texte. Mais effectivement, quand est-ce qu'on est capable d'avoir une preuve en analysant le texte? Ce que nous disent les auteurs, c'est que la quantité ne suffit pas, qu'il faut être capable effectivement d'interroger son corpus, de le transformer en données et d'avoir une analyse. Puis que la preuve, au final, c'est pas la donnée brute. La preuve, c'est comment est-ce qu'on instrumentalise, au final, la donnée et qu'on la reçoit dans un contexte donné.
C'est vraiment intéressant comment là, les différents auteurs autrices là, apportent là, tous les différents aspects là, de la preuve dans cet ouvrage. Si on passe au deuxième ouvrage, La science qui se fait, de Louis M. Imbeau, L'explication en sciences sociales.
Ouais, ça c'est un ouvrage publié aux presses de l'Université Laval par un professeur émérite de sciences politiques de l'Université Laval. Louis M. Imbeau, il a enseigné pendant 35 ans les méthodes de recherche en sciences sociales aux étudiants des trois cycles universitaires. Et ben, il a eu envie effectivement de peut-être faire le petit manuel qu'il aurait aimé avoir à l'époque à donner à lire à ses étudiants. Et donc, ben, cet ouvrage-là, ben, ce sur quoi il se penche au final, c'est quoi une bonne explication en sciences sociales? C'est quoi une bonne méthode en sciences sociales? Et donc, oui, ça s'adresse à des étudiants qui suivent des cours en sciences sociales, mais ça s'adresse aussi aux gens qui sont curieux des sciences sociales de manière générale, qui vont s'intéresser à l'histoire, à la sociologie, à l'anthropologie, etc., aux sciences politiques, et qui ont envie de comprendre comment est-ce qu'on en arrive à construire la science dans ces disciplines-là.
Mais justement, ben c'est ça. Quels sont les différents aspects d'expertise là, que ce professeur d'expérience nous partage dans l'ouvrage?
Bien, il nous partage principalement 6 schèmes explicatifs. Le schéma actantiel, par exemple, qui dit que bon, on est capable d'expliquer quelque chose par l'action des acteurs, les décisions qui ont été prises par ces gens-là. Il y a le schéma fonctionnel qui nous permet de comprendre que les choses s'expliquent par les conséquences. Par exemple, il va donner des exemples sur l'épidémie de VIH va amener davantage de collaboration entre les chercheurs. Même chose, effectivement, les guerres vont amener des infanticides. Donc, il y a toujours effectivement la même structure dans chacun de ces chapitres. Il explique l'approche en sciences sociales d'un point de vue méthodologique, puis il donne des exemples qui permettent de comprendre cette approche-là.
Puis justement, en fonction là, des différents thèmes puis des différentes approches en sciences sociales, est-ce que il y a des méthodologies qui sont différentes des unes des autres? Puis comment ceux-ci se complètent ou s'exposent?
Bien, il va y avoir des méthodes qui vont davantage être utilisées par certaines sciences sociales que par d'autres. Mais ce que nous montre Louis M. Imbeau, c'est qu'au final, ces méthodes-là, elles peuvent être utilisées dans différentes disciplines. Lui, c'est un politologue, mais dans son ouvrage, il fait couramment référence à l'histoire, à la politique, également à des éléments de sociologie, etc. Et donc, on voit que chacune des méthodes peut être utilisée par différents chercheurs. Dans les autres méthodes qui sont présentées, on a l'explication herméneutique qui, ça, c'est interpréter les significations. Il y a aussi le schéma dialectique, ça, c'est expliqué par les contradictions. Il donne notamment des exemples sur la ségrégation scolaire et les résultats. On parle beaucoup de l'école à 3 vitesses ces temps-ci.
Ouais.
On pourrait croire qu'en rassemblant les meilleurs ensemble, mais au final, on va élever la société parce que les meilleurs vont avoir une émulation entre eux. Mais au final, c'est pas ça que ça donne. Et donc là, il permet de voir par le schéma dialectique donc comment est-ce qu'il y a une espèce de paradoxe qui au final appauvrit un petit peu tout le monde sur le plan de la réussite globale en ayant cette ségrégation scolaire-là.
Mais justement, comme tu le disais en début de présentation de l'ouvrage, autant ça peut intéresser et aider là, des étudiants et étudiantes en sciences sociales, mais également, je pense que ça peut nous aider à mieux comprendre pour ceux et celles qui ne sont pas étudiants étudiante, mais de mieux comprendre justement le travail de recherche, puis c'est quoi les différentes méthodologies qui peuvent être utilisées dans les différentes sciences sociales, puis comment ceux-ci sont étudiés.
Oui, parce que c'est toujours des petits chapitres qui font à peu près une quinzaine de pages. Et comme je le mentionnais, on explique effectivement chacune des approches, puis on a des exemples. Et donc, c'est assez accessible. On peut se pencher simplement sur les chapitres qui nous intéressent le plus. Puis, sauter effectivement ceux qui nous semblent moins pertinents là, si on veut y aller effectivement de manière très, très thématique. Et donc, c'est un ouvrage qui risque d'intéresser ceux qui, c'est ça. Commencent leurs études à l'Université Laval ou ceux, effectivement, qui veulent mieux comprendre comment est-ce qu'on fait les sciences sociales.
Et pour le troisième ouvrage, c'est un ouvrage de Jean-René Roy sur la science qui surprend, éclaire et dérange.
Oui. Sur la science qui se surprend, éclaire et dérange, un autre ouvrage publié aux presses de l'Université Laval. Au final, Jean-René Roy, il se pose un peu la question, c'est quoi la science? Quel est son rôle aussi dans la société? Et donc, c'est un ouvrage qui fait une espèce de synthèse sur l'évolution des sciences de manière générale, mais qui surtout se veut un ouvrage de vulgarisation pour rendre les sciences accessibles et rendre aussi, réfléchir sur leur utilité dans l'espace public et dans la société actuelle.
Oui, puis justement, on l'a vu, les sciences... c'est un terme, mais qui englobe différents sujets puis différentes manières de voir les choses dans notre société. Donc, dans l'ouvrage, on voit vraiment toutes ces différentes facettes des sciences.
Tout à fait. Je vous dirais qu'on est davantage du côté des sciences nature, alors que l'ouvrage précédent était davantage du côté des sciences humaines. Mm-hmm. Donc, dans la première partie sur la science qui permet de comprendre le monde, on s'intéresse notamment au tableau périodique de Dimitri Mendeleev, aux ondes gravitationnelles, à l'ADN, aux plaques tectoniques, à ce genre de choses-là. Ça peut avoir l'air un petit peu disparate a priori parce que, au final, il va dans beaucoup de directions différentes. Mais au final, ce qu'il faut retenir, c'est que, la recherche, ça égale une entreprise, de découverte, de vérification, de remise en question. Et c'est ce qu'il veut montrer. Parce que dans chacun de ces cas-là, il montre effectivement comment est-ce que la science s'est faite, comment est-ce qu'elle a été remise en question et comment, comme je mentionnais pour le premier ouvrage, au final, la science, elle se fait un petit peu à la frontière du connu. On remet en question effectivement certaines choses, puis on va explorer les zones un petit peu d'ignorance pour être capable de tranquillement faire évoluer les choses.
Puis justement, le fait d'aller dans différentes visions, ouais, ou dans différents thèmes, ça permet de les vulgariser d'une manière peut-être plus simple, même si on ne va pas nécessairement en profondeur dans chaque sujet. On les survole chacun d'entre eux, puis ça nous permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble, probablement.
C'est exactement ça, parce qu'au final, ce que Jean-René Roy a voulu faire, c'est vraiment un ouvrage qui montre que la science n'est jamais achevée, que puis un plaidoyer pour la pensée scientifique. Il y a vraiment une volonté que la science soit davantage dans l'espace public, parce que c'est aussi toute sa deuxième partie, c'est sur la science, les usages de la science. Donc, on a une première partie sur les croyances et les savoirs, une seconde sur les instruments, l'instrumentalisation de la science, puis une dernière sur la science qui aide. En fait, là, je pense que je ne les ai pas nommés dans le bon ordre, mais peu importe. Sur l'instrumentalisation de la science, on voit que, c'est notamment réutilisé par des capitalistes qui vont sur Mars, par, tu sais, aussi toute la question de l'intelligence assistée, ce qui est l'IA qui est en train de se développer. Mmh. On voit effectivement que la science peut être utilisée parfois à des fins qui sont peut-être pas toujours...
ceux qu'il y avait à la base.
Celles qui avaient été pensées au départ. Mais on voit en contrepartie que la science peut aider, notamment dans un petit chapitre sur du photon au laser, où il montre effectivement ces avancées-là sur le plan scientifique. Aussi, tout ce qui est de la recherche industrielle qui peut être quand même assez importante, qui est faite d'un point de vue scientifique.
Puis, je suis curieuse de t'entendre sur la science qui dérange.
Ouais.
C'est quoi justement les différents aspects qui sont amenés par l'auteur pour faire un peu chambouler nos perspectives de scientifiques puis ceux qui viennent se déranger, l'esprit critique?
Là, on est entre autres notamment dans la section sur les croyances et le savoir. Et ce que Jean-René Roy pose comme question, c'est au final, est-ce que science et religion sont capables de se marier ensemble? Des fois, effectivement, la science va déranger parce qu'elle remet en question un culte, des croyances, etc. Des fois, la science aussi, elle dérange parce qu'au final, elle va aux frontières de l'ignorance. Mmh. Et donc, là, il y a toujours effectivement cette question-là de est-ce que t'es fou ou est-ce que t'es folle parce qu'effectivement, tu remets en question les choses qui sont établies, ou est-ce qu'au final, t'es une scientifique qui est capable de dépasser les faits communs? Donc, il y a tous ces éléments-là. Il y a notamment, plusieurs sections où, il parle, des scientifiques, la plupart sont agnostiques ou athées, mais il y en a plusieurs qui sont croyants et qui marient leurs croyances avec effectivement la pratique de la science. Donc, c'est des choses dont il traite dans son ouvrage qui, je dirais, un espèce de plaidoyer pour l'accessibilité de la science et un ouvrage qui vise à faire découvrir à des non-scientifiques, au final, qu'est-ce que la science? Quel rôle est-ce que ça joue?
Et le dernier ouvrage que tu nous présentes aujourd'hui, Alex, c'est un ouvrage de Denis Goulet, « Brève histoire de la médecine au Québec ». De la Nouvelle-France à aujourd'hui.
Ouais,
il doit en avoir des affaires à dire là, sur la médecine, justement, au Québec, là, depuis le temps de la Nouvelle-France.
Ah, il y en a des affaires à dire parce que, bon, il y a une riche histoire de la médecine au Québec et aussi parce que Denis Goulet, c'est l'un des plus grands spécialistes de l'histoire de la médecine au Québec, sinon le plus grand spécialiste de l'histoire de la médecine au Québec. Concrètement, il a écrit des livres sur à peu près tous les sujets en histoire de la médecine. Denis Goulet, grosso modo, sa carrière, ça a été, d'aller voir la Fédération des médecins spécialistes, de dire « Ah tiens, ça vous tenterait-tu que je fasse un livre sur l'histoire des médecins spécialistes? » Les médecins spécialistes disaient oui. Hop, ils exploraient ça. Après, ils allaient voir les cardiologues, ils allaient voir, les gynécologues, ils allaient voir différents hôpitaux. Si je ne m'abuse, il en sort un cet automne sur l'Hôtel-Dieu de Montréal. Donc, il a fait à la fois plein d'histoires d'hôpitaux, mais plein d'histoires de spécialités médicales au Québec. Et donc, il connaît vraiment très, très bien l'histoire de la médecine au Québec. Et je dirais que là, le défi pour lui, ça a été que, tu sais, concrètement, son histoire de la médecine au Québec, il aurait pu faire ça en 10 000 pages qu'on additionne tous les travaux qu'il a fait sur l'histoire de la médecine. Or là, il y a vraiment un exercice de synthèse de faire tout ça en 200 pages, même en à peu près 175 pages, et de synthétiser tout ça pour que, à la fois les gens qui sont dans le milieu de la médecine, mais aussi les gens qui, comme moi, sont curieux, veulent en savoir un petit peu plus sur l'histoire de la médecine, puissent avoir un portrait d'ensemble de l'histoire de la médecine de la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui.
Justement, pour synthétiser tout ça, il faut choisir les moments forts, probablement, de l'histoire. Quels sont peut-être les premiers pas de la médecine qui sont présentés dans l'ouvrage?
Au départ, ce dont nous parle Denis Coulet, c'est oui, un petit peu de l'influence autochtone, mais des premières communautés religieuses qui viennent s'établir ici, notamment les Augustines qui vont fonder l'Hôtel-Dieu de Québec, également les hospitalières à Montréal qui vont fonder un hôpital de ce côté-là. Il nous parle également du rôle des chirurgiens versus des médecins. Aujourd'hui, un chirurgien, c'est un médecin, mais à l'époque, un chirurgien, c'est davantage quelqu'un qui est proche du barbier. Donc, c'est quelqu'un qui coupe, c'est quelqu'un, effectivement, qui a des instruments bien affûtés et qui sait s'en servir, alors que le médecin, c'est quelqu'un qui est plus propre. Lui, il étudie la médecine dans les livres et il a des connaissances et il va poser ses diagnostics, etc.
C'est
mais il ne salira pas les mains.
C'est plus théorique que pratique. Là.
C'est ça. Et donc, c'est plus tard, au 19e siècle, que là, vraiment, le chirurgien puis le médecin vont davantage fusionner ensemble et que là, il va y avoir une volonté, notamment de la part des médecins, de mieux contrôler qui est-ce qui a le droit de pratiquer la médecine, que ça peut plus être n'importe qui comme c'était avant. D'ailleurs, une des choses qui fait que le livre est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs petits encadrés sur des petits fun facts, j'aurais envie de dire, notamment le bonhomme 7 heures. Le bonhomme 7 heures, il a des origines médicales.
Ah ouais?
En fait, bonhomme 7 heures, ça viendrait de bone setter, le ramancheur, celui effectivement qui remet les os en place, bone setter. Et c'est ça, il passait de place en place, puis là, on dit aux enfants, le bonhomme 7 heures, le bone setter va arriver, va te coucher, etc., parce que là, sinon, tu vas y goûter, etc. Et ce que les médecins font au final au 19e siècle, c'est en partie essayer de contrôler qui pratique la médecine. Ce qui est à la fois une bonne chose parce que il y avait entre autres des charlatans, il y avait des gens qui n'avaient pas nécessairement de connaissances, mais ils vont aussi se faisant tasser notamment les sages-femmes qui avaient un savoir qui était quand même assez précieux et qui va revenir seulement au 20e siècle. Donc, c'est un petit peu de tout ça dont nous parle Denis Goulet. Et oui, il parle de grands événements, mais il parle aussi de comment est-ce que fonctionnaient les hôpitaux au 19e siècle, comment fonctionnent les hôpitaux au 20e, l'évolution aussi avec le fait que le système de santé devienne public par la suite. Et quand on dit jusqu'à aujourd'hui, ça finit avec les lois de la CAQ sur les médecins.
Ouais.
Donc, c'est vraiment jusqu'à aujourd'hui.
C'est ça, c'est très d'actualité d'où on ressort cette histoire-là. Merci grandement, Alex, de nous avoir fait découvrir ces quatre ouvrages fort intéressants puis qui nous permettra définitivement d'en connaître davantage sur la science dans ces différentes dans ces différents horizons. Est-ce que tu peux nous répéter les quatre ouvrages en rafale, s'il vous plaît?
Avec grand plaisir. On a commencé par Faire preuve, comment nos sociétés distinguent le vrai du faux, un ouvrage sous la direction de Julien Prudhomme et Molly Cao aux presses de l'Université de Montréal qui nous amène à remettre en question ce qu'est une preuve et à comprendre que c'est un construit social. Ensuite, on a parlé de La science qui se fait, l'explication en sciences sociales, un ouvrage de Louis M. Imbeau publié aux presses de l'Université Laval, un ouvrage méthodologique qui va intéresser les gens qui s'intéressent aux sciences sociales. Puis on a parlé de La science qui surprend, éclaire et dérange de Jean-René Roy, toujours aux presses de l'Université Laval, un ouvrage qui vise à vulgariser la science et à expliquer sa pertinence et son rôle dans la société. Et finalement, une synthèse sur l'histoire de la médecine avec Brève histoire de la médecine au Québec de la Nouvelle-France à aujourd'hui, un ouvrage de Denis Goulet, publié chez Septentrion.
Merci grandement, Alex, et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour, pour plus de découvertes littérature avec toi. Merci.
À la semaine prochaine.
Et c'est ainsi, chers auditeurs et auditrices, qu'on termine notre émission du jour. Merci d'avoir été à l'écoute de Chérie J'arrive, votre retour culturel ici sur les ondes de Chiz 94.3. Ça me fait toujours très plaisir de vous accompagner, peu importe où vous êtes, et vous faire découvrir l'actualité des arts et de la culture de la ville de Québec et de ses environs. Aujourd'hui, à l'émission, on a parlé avec Marc Pépin, un doctorant en anthropologie, ici même à l'Université Laval. On a parlé de son exposition « L'essence des voix, résonance humaine animale » à Matimé. Couche lac.